Bon ben bonsoir à tous. Merci d'être venus. Aujourd'hui, je tenais à inviter Caroline, je sais pas, demander comment est-ce qu'on prononce ton nom.
Segesser.
C'est la première fois que je la rencontre, donc je la connais pas beaucoup plus que vous. Ceci dit, ça fait un moment que je la suis et je sais qu'elle a fait par exemple un doctorat à l'ULB sur le financement des cultes en Belgique. Elle a travaillé au CRISP, qui est le centre de recherche et d'information
sociopolitique.
En vrac. Elle a publié un petit bouquin. Elle a dirigé ce bouquin-ci. Elle a publié un autre bouquin sur le financement des cultes que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Celui-ci est un ouvrage collectif dans lequel il y a des articles de plusieurs auteurs. Mais enfin, il est intéressant sur la question. Et comme on en parlait tout à l'heure, il y a peu d'ouvrages qui traitent du sujet du financement des cultes en Belgique. Elle a travaillé aussi à l'ULB où elle était responsable ou rédactrice sur le site Orella, hein, si tu pourras peut-être nous en dire plus. C'est l'Observatoire des religions et de la laïcité. C'est un site qui est géré par le Centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité à l'ULB. Et dans ce centre, depuis deux ans, il publie un rapport sur l'état des religions et de la laïcité en Belgique, qui est une espèce de revue de l'actualité sur les problèmes qu'il y a eu, notamment la pédophilie, ou sur l'élection de l'exécutif des musulmans de Belgique, par exemple, ou sur la récente formation des athées de Belgique, par exemple. C'est tous des sujets qui sont mis en avant dans ce rapport. Et alors, je sais en plus, et tout ça mélangé va faire que je pense qu'on va passer une bonne soirée, qu'elle a un livre en préparation, même presque publié, sur les cours philosophiques à l'école publique. Parce qu'en Belgique, comme vous savez, l'État n'est pas laïque, mais neutre. Et donc, il n'y a pas une séparation aussi nette qu'on pourrait croire entre les religions et l'État. Et les cours de religion sont organisés dans les écoles. J'en dis pas plus sur le sujet, parce que sinon, ça va nous mener très loin. Mais je te cède la parole.
Merci beaucoup. Merci à vous d'être là. Merci pour l'invitation. J'aime effectivement toujours venir et échanger autour de ce sujet des religions, du fait religieux, de la laïcité en Belgique ou ailleurs. Parce que finalement, j'ai fait, comme tu le rappelais un peu, j'ai fait le pas de décider de me consacrer entièrement à ce qui était au départ un hobby. Quand je travaillais au CRISP, je travaillais essentiellement sur des matières politiques et institutionnelles, que j'aimais bien, mais qui étaient un peu arides. Et puis un jour, j'ai découvert comment était organisé le financement public des cultes en Belgique et je suis véritablement tombée amoureuse du sujet. Et donc, depuis des années, je le creuse, j'ai fait un doctorat là-dessus, puis j'ai un peu élargi mon angle d'approche pour m'intéresser d'une façon générale aux religions, aux groupements convictionnels dans notre pays, avec effectivement plutôt une concentration sur l'interface avec les pouvoirs publics. Donc je suis historienne, pas sociologue, et puis je m'intéresse assez peu à la dynamique qui se passe à l'intérieur des groupes, parce que je crois que c'est aussi difficile de s'intéresser à tout le monde, et pour faire une étude convenable des mouvements convictionnels de l'intérieur, ben il faut s'immerger dedans, donc ça c'est pas ce que je fais. Moi je regarde essentiellement l'attitude des autorités publiques face aux faits convictionnels et religieux. Alors effectivement, l'an dernier j'ai travaillé pour l'Observatoire pour Orella. Donc, je me propose d'aborder avec vous certains thèmes, parce que, bon, je pense qu'on ne peut pas parler de tout, en tout cas, moi, je ne peux pas parler de tout pendant 45 minutes, une heure, sans déborder, sans prendre le risque de vous lasser. Bien entendu, on pourra, après, dans la discussion, parler d'autre chose. En reparcourant un peu le rapport d'Observatoire de l'an dernier, je me suis dit que, bon, j'allais vous parler un peu de la répartition des convictions, des pratiques dans la population, ou du moins de ce qu'on en sait, que j'allais évoquer un peu la diversité du monde chrétien, qui est généralement peu présente, en tout cas dans les médias, dans les débats, que je vous parlerai des structures de l'islam, c'est un prisme à mon avis intéressant pour parler du monde musulman et qui n'est pas encore beaucoup traité, qu'évidemment je vous donnerai quelques chiffres à propos de mon dada, à savoir le financement public des cultes et de la laïcité, et enfin je terminerai par parler de l'enseignement de la religion, de la morale, autrement dit des cours dits philosophiques dans notre pays, puisque une autre particularité du système, c'est qu'on appelle ça cours philosophique et qu'en fait il y a très très peu de philo dedans. Et au terme de ces cinq petites capsules, je me permettrai une petite conclusion sur ce qui était finalement le titre choisi pour ma conférence ce soir, à savoir le poids et la place des religions dans notre pays. Alors, un mot donc sur cet observatoire, qui est essentiellement un portail web, qui a donc été créé au sein du CIERL, qui propose essentiellement trois choses. Une revue de presse quotidienne pour ce qui est de la presse belge, hebdomadaire pour la presse européenne et parfois on déborde également du continent. Et ensuite des analyses en ligne qui sont rédigées par des chercheurs du CIERL, de l'ULB ou d'ailleurs sur des sujets d'actualité ou des sujets qui simplement à un moment donné attirent leur attention, comme ici ma collègue Cécile s'était penchée, Cécile van der Pelen, sur la bande dessinée Bécassine pour voir comment cette bande dessinée était en réalité un vecteur d'une morale catholique traditionnelle dans l'entre-deux-guerres, et le résultat de son analyse est tout à fait intéressant à lire. Et vous pouvez vous inscrire à la newsletter d'Aurella et vous recevrez ainsi, chaque fois qu'il y a une mise à jour du site au niveau des analyses, le nouvel article. Et donc nous publions aussi ce rapport, Religion et laïcité en Belgique, rapport annuel. Il y en a eu deux jusqu'à présent, 2012 et 2013, le rapport de l'année précédente sortant généralement vers mars-avril et s'efforçant de récapituler l'ensemble de l'actualité du fait religieux et de la laïcité dans notre pays pour l'année précédente. Alors je commence par vous parler de la répartition des convictions, c'est-à-dire des chiffres, je pense que oui. Pour vous dire que c'est quelque chose, et ce matin au colloque des athées, on a encore eu une nouvelle illustration de la difficulté d'avoir des chiffres. C'est quelque chose de très très difficile à obtenir, particulièrement dans notre pays où il n'y a pas de recensement des convictions de la population. Et il y a assez souvent des enquêtes de type journalistique qui sont faites, et voilà ici le résultat de trois enquêtes que j'avais comparées en son temps, parce qu'elles étaient sorties à peu d'intervalle. Une première enquête publiée dans le Vif en 2006, le baromètre du religieux et de la libre en 2008, et puis une enquête publiée par Le Soir en 2010 à l'occasion de l'arrivée d'André Léonard à l'archevêché de Malines. Alors ce dont on peut s'apercevoir spontanément, c'est qu'il y a une grande divergence dans les résultats constatés par ce type d'enquête. Pourtant, quand elles sont publiées, généralement, on fait un gros titre sur un chiffre. Je me rappelle du sondage du FIF, la moitié de la Belgique était non-croyante et certains spécialistes étaient venus dire, voilà, c'est vraiment un témoin de la sécularisation, c'est encourageant, ou énormément de commentaires sur ce fait-là. Et puis après, on a vu d'autres sondages qui donnaient évidemment autre chose, mais de la Libre Belgique, par exemple, elle avait scindé les catégories, ça c'est un deuxième problème, on ne pose pas forcément les mêmes questions. Donc par exemple, pour ce qui est athéisme, agnosticisme, non-croyance, absence de religion, mais parfois on ventile ça en quatre catégories, parfois on les remet dans une. Ce baromètre du religieux de la Libre, par exemple, avait présenté en première page un camembert, où ils avaient splitté, encore plus que dans la petite colonne que je vous ai fait là, les athées, les incroyants, les agnostiques parce qu'ils ne se posent pas la question, les agnostiques parce qu'ils n'ont pas de réponse à la question. Et donc vous aviez toute une série de petites tranches qui finalement représentaient les gens qui n'avaient pas de religion. Par contre, ils avaient mis tous les chrétiens ensemble. Et donc quand vous lisiez, quand vous regardiez le camembert de prime abord, vous avez une grande dominance de la part réservée au christianisme. Nonobstant le fait que les questions ne soient pas les mêmes, il y a évidemment des résultats qui sont interpellants. On prend par exemple le nombre de musulmans dans notre pays, alors on passe de 0,3% pour le vif à 12% pour la libre. Je crois que là, il faut simplement se dire, on n'a pas beaucoup de détails sur la façon dont le sondage a été réalisé, il faut incriminer la largeur de l'échantillon et puis sans doute aussi la façon dont il a été sélectionné, parce qu'on ne peut pas expliquer de telles divergences. Il y a une autre source de répartition des convictions en Belgique qui est un peu plus fiable, c'est celle de la European Value Studies qui est réalisée en Belgique par une équipe de la KUL. Alors je vous ai mis les résultats des deux dernières enquêtes, ce sont des enquêtes décennales, donc on a 2010 et on a 2000. J'ai mis les deux parce qu'en 2010 on n'a plus ventilé par région malheureusement. Alors que je trouve que c'est quand même intéressant d'observer certaines différences qui se manifestent encore entre le nord, le sud et le centre du pays. Les résultats en résumé, mais vous les voyez, pour la Belgique en 2010, on a encore 50% de gens, tout juste, qui déclarent appartenir à l'Église catholique. Donc l'enquête porte sur une appartenance. Elle ne porte pas sur une conviction, elle ne porte pas sur une pratique, elle demande simplement à quelle communauté convictionnelle on estime appartenir. Et donc on a un Belge sur deux, un habitant de Belgique sur deux, qui déclare appartenir à l'Église catholique. Ça a été réalisé a priori selon la même méthodologie à 10 ans d'écart, et donc on voit tout de même une baisse significative entre 2000 et 2010. On voit aussi la persistance d'un écart, mais relativement faible, entre la Flandre et la Wallonie. Donc il y a aussi d'autres chiffres qui existent, qui viennent corroborer cette idée que la vision traditionnelle d'une Flandre catholique et d'une Wallonie plus sécularisée, ben, elle s'estompe complètement. Et maintenant, il y a eu un rattrapage très rapide au niveau de la prise de distance vis-à-vis de la religion en Flandre, sauf peut-être dans la question de l'enseignement. Mais donc cette image-là, elle est à revoir. En revanche, ce qui reste vrai, c'est que à Bruxelles, il y a moins de catholiques qu'ailleurs, et il y a beaucoup plus de croyants d'autres communautés convictionnelles. Alors c'est vrai évidemment pour l'islam, le rapport trouvant 8% de musulmans à Bruxelles pour un pourcentage global en 2010 de 5%. Le pourcentage global en 2000 était très inférieur, donc on peut aussi s'interroger sur cette croissance importante de l'islam entre 2000 et 2010. Ce qui est sûr, c'est qu'évidemment, le paysage de Bruxelles est différent sur ce plan. Maintenant, parce qu'on est en Belgique, on fait souvent des statistiques Flandre, Wallonie, Bruxelles, et on n'en fait pas grandes villes et autres parties du territoire. Donc il est très probable que Charleroi, Liège, Anvers connaissent également des structures convictionnelles qui sont assez proches de ce qu'on trouve à Bruxelles. Mais sans doute pas tout à fait, il y a des phénomènes qui sont tout de même beaucoup plus développés à Bruxelles, et non, c'est valable non seulement pour l'islam, mais pour les autres communautés convictionnelles également. En particulier, j'y reviendrai tout à l'heure, au niveau des chrétiens non catholiques, protestants, protestants évangéliques, mormons, ce sont des fidèles qu'on retrouve beaucoup plus dans la capitale que dans les autres régions du pays. Même chose pour les chrétiens orthodoxes, qui sont implantés davantage à Bruxelles que dans d'autres régions du pays. La dernière ligne qui concerne les non-religieux, en 2010, les sondeurs ont décidé de scinder la question en deux, entre ceux qui se déclarent athées, et ça c'était 9%, et ceux qui déclarent simplement qu'ils n'ont pas de religion, et ça c'était 32,6%. C'est un résultat qui corrobore un peu, qui ressemble un peu à celui de l'enquête du VIF, et qui montre quand même une proportion très importante de personnes qui sont, on va dire, non religieuses. Donc on a, grosso modo, une petite moitié de la Belgique qui est encore catholique, une petite moitié qui n'a pas de religion, et puis entre les deux, un foisonnement, un développement d'une série d'autres communautés convictionnelles. Au niveau de la pratique, on n'a malheureusement de chiffres que pour les catholiques. Donc généralement, on interroge l'appartenance et on n'interroge ni vraiment les convictions, ni le degré de pratique religieuse. Or, on sait bien, des études dans d'autres pays nous l'ont montré, qu'on assiste à une recombinaison de toutes les formes de religiosité possibles. Il y a des gens qui sont croyants sans être affiliés à une église, il y a des gens qui sont affiliés, membres d'une église sans forcément être croyants, il y a des croyants qui ne pratiquent pas, et il y a même des pratiquants qui ne sont plus croyants, mais qui trouvent dans l'assemblée religieuse un réconfort, un avantage, tout ce qu'on veut. Donc c'est assez complexe. Et nous n'avons pas d'études, en particulier dans le monde musulman, on vit encore dans une espèce d'assignation. Quelqu'un qui est de culture et d'origine musulmane est forcément quelqu'un qui est musulman sur le plan religieux. On n'a pas d'enquête pour stratifier les degrés de pratique au sein de l'islam. Par contre, on a des chiffres pour la pratique catholique, et j'aime toujours beaucoup les montrer. Jusqu'en 1996, ce sont des chiffres qui étaient fournis par la conférence épiscopale elle-même, qui avait un service de statistiques. À partir de 1996, ils ont cessé de fournir les statistiques. Peut-être que celles-ci devenaient vraiment trop déprimantes, ou que des économies sur le plan budgétaire s'imposaient, donc il n'y a plus de statistiques, jusqu'en 2007, où, à notre grand bonheur, les évêques ont décidé de confier à une équipe de la KUL le soin de réaliser une nouvelle enquête. Alors, pour ce qui concerne les mariages, les baptêmes et les funérailles, c'était simple, on a simplement interrogé les curés en demandant de comptabiliser dans leur registre le nombre d'actes qui avaient été posés pendant une année donnée. En revanche, pour la pratique dominicale, c'était un peu plus compliqué, et qu'ont fait nos sociologues en 2007, ils sont allés compter le nombre de fidèles présents dans les églises à la Noël. La veillée, le jour d'avant, le 24, et puis le 25. Évidemment, il y a eu beaucoup de critiques pour leur faire observer que ça n'était sans doute pas un jour particulièrement neutre en ce qui concerne la pratique religieuse. Et donc, en 2009, ils ont remis le couvert, mais cette fois, ils ont compté les présences lors d'un dimanche ordinaire, à savoir le troisième dimanche du mois d'octobre. Alors, je vous laisse découvrir les chiffres qui montrent tout de même une accélération. Donc, vous avez entre 1977 et 2009 un déclin extrêmement poussé de la pratique religieuse catholique. Puisqu'on passe en Belgique de 30% de personnes, donc c'est bien une statistique par rapport à la population générale, on passe de 30% de personnes qui sont à la messe chaque dimanche à moins de 5% en 2009. Là aussi, on observe ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une forme de rattrapage entre le nord et le sud du pays, puisque la pratique religieuse n'est guère beaucoup plus élevée en Flandre qu'en dans le reste du pays. En revanche, à Bruxelles, avec 3,43%, la capitale reste bien la ville des mécréants, ce qu'elle est déjà depuis un bon nombre d'années. On observe aussi de façon très classique une persistance plus longue et plus soutenue de la pratique religieuse occasionnelle lors des grands événements de la vie, mariage, baptême, funérailles. On est actuellement à un baptême sur deux, ça veut dire que pour deux enfants qui naissent en Belgique, il y en a un des deux qui est baptisé. On est à un mariage sur quatre. C'est-à-dire que pour quatre mariages civils, quatre mariages tout court, il y en a un qui est suivi d'un mariage religieux catholique. Mais bien évidemment, vu les positions de l'Église en la matière, et ce n'est pas le synode actuel qui va sans doute les changer profondément, mais il y a toute une série de personnes qui ne sont pas dans la situation de pouvoir contracter un mariage catholique. Donc ça ne présume évidemment pas de leur désir éventuel de participer à cette cérémonie. Alors les funérailles se sont maintenues à un niveau élevé beaucoup plus longtemps que le reste. Qu'on puisse imputer cela à un degré de pratique religieuse qui s'est maintenu plus longtemps dans une population plus âgée ou simplement à une forme d'assurance de dernière minute, on ne sait jamais. Ça s'est maintenu pendant très longtemps. Mais actuellement, vous voyez qu'on se rapproche tout d'un coup, on se rapproche progressivement d'un niveau de funérailles religieuses qui est finalement comparable avec les baptêmes. On a grosso modo une moitié de gens qui commencent leur vie dans l'église et qui la finissent également dans l'église, avec là aussi une grosse différence à Bruxelles. Seule une cérémonie de funérailles sur cinq est une cérémonie catholique, ce qui représente évidemment un grand changement par rapport à sa situation d'il y a 30 ans, où une grande majorité de Belges, au moins au moment des actes importants, des étapes importantes de leur vie, se rendaient à l'église. Voilà pour ce qu'on peut se dire du paysage confessionnel de notre pays en insistant sur le fait qu'on manque de données. Il est regrettable qu'on n'ait pas une bonne étude scientifique sur la répartition des convictions et des pratiques dans la population. Ça fait tout à fait défaut, notamment pour asseoir certains critères, notamment au niveau du financement public des cultes. On en discute souvent, mais on ne sait finalement pas s'il y a une bonne corrélation. On soupçonne qu'elle est mauvaise, mais on n'a pas d'éléments suffisants pour étayer le fait de la corrélation entre la répartition du financement et la taille des communautés convictionnelles. Alors l'islam est sans doute la communauté convictionnelle qui fait actuellement le plus débat, et c'est probablement aussi celle qui est le plus en croissance dans notre pays, et donc on assiste là à une dynamique qui est tout à fait à l'opposé de celle qu'on observe pour l'Église catholique, sachant que la raison n'est pas la même. Pour l'Église catholique, on a une désaffection vis-à-vis de l'Église de personnes qui sont nées en son sein. Au niveau de l'islam, c'est essentiellement l'immigration et la dynamique démographique qui fait que cette religion occupe plus d'espace. Il n'y a aucune étude qui montre qu'il y ait, je dirais, un degré de religiosité, de pratique ou de foi beaucoup plus élevé chez les enfants, les petits-enfants, des personnes de culture et de religion musulmane qui sont arrivées dans notre pays. Inversement, on n'a pas non plus d'études qui viennent corroborer ce qu'on a par exemple observé en Allemagne dans la communauté turque, à savoir un éloignement de la religion chez les immigrés de seconde ou troisième génération. Dans notre pays, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, et à Aurélie, on dépouille la presse, donc on voit avec souvent un peu de surprise, voire même parfois de consternation, ce que la presse peut écrire sur l'islam en Belgique, étant donné simplement que ça ne repose pas sur des données scientifiquement étayées. Moi, ce qui m'a frappé dans l'actualité relative à l'islam ces dernières années, c'est le développement de nouvelles structures. Alors il y a d'une part évidemment les structures qui sont officiellement reconnues par les pouvoirs publics dans le cadre du financement public des cultes. Alors on dit souvent que la Belgique a été le premier État à reconnaître l'islam, sous-entendu le premier État européen. Oui, c'est vrai, mais il faut tout de même apporter un correctif, c'est parce que la Belgique est dans un système de reconnaissance des cultes. Il y a une foule d'États européens qui ne connaissent pas ce type de système-là et qui donc n'avaient pas à reconnaître d'une façon quelconque l'islam ou à ne pas le reconnaître. Il est vrai que cette décision a été précoce et elle a surtout été rapide. Quand on regarde les débuts, les débats parlementaires à l'époque en 1974, on ne s'interroge quasi pas sur les raisons de cette reconnaissance et on s'interroge encore moins sur les modalités pratiques qui vont être nécessaires pour la mettre en œuvre. Et donc, formellement, l'acte est posé en 1974, c'est-à-dire, en fait, l'admission de l'islam au financement public des cultes. Personne n'a pensé comment l'organiser. On va le faire assez rapidement au niveau de l'enseignement. Dès l'année scolaire 1978-79, il y a des cours de religion islamique en communauté française. Mais pour ce qui est de mettre sur pied une reconnaissance des lieux de culte, c'est-à-dire des mosquées, et le paiement des ministres des cultes, c'est-à-dire des imams, on n'arrivera pas à mettre quoi que ce soit sur pied avant le début des années 2000. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un système qui, indépendance des églises oblige, empêche l'État de décider lui-même unilatéralement des lieux de culte qu'il finance et des ministres du culte dont il paye les traitements. Et donc il fallait absolument ce qu'on appelle en langage habituel un organe chef de culte, un organe représentatif, et on a tergiversé, il y a eu des allers-retours. À certains moments les pouvoirs publics souhaitaient vraiment susciter la création d'un tel organe, à d'autres on se disait mais finalement la décision symbolique c'est peut-être pas urgent de la concrétiser, donc on va remettre ça à plus tard. Il y a eu des allers-retours, il n'y a pas eu du côté, je dirais, des communautés musulmanes, parce que la communauté musulmane s'est fait vraiment un grand raccourci par rapport à la diversité des personnes musulmanes sur notre territoire, il n'y a pas eu du côté des musulmans de Belgique une structuration spontanée pour fournir aux autorités publiques l'organe chef de culte dont elles avaient besoin. Et donc il y a eu deux tentatives de susciter un organe chef de culte sur base de ce qui existait. Donc la première, c'était de travailler avec la grande mosquée du cinquantenaire, ce qui n'a pas du tout fonctionné parce qu'elle ne correspondait absolument pas aux traditions des musulmans essentiellement présents en Belgique qui sont originaires du Maroc ou de la Turquie, alors que la grande mosquée du cinquantenaire, ben, elle était plutôt contrôlée par l'Arabie saoudite. On a eu plusieurs tentatives avant de décider en 98 d'organiser des élections. Alors les élections pour l'exécutif des musulmans de Belgique ont été saluées de façon, je dirais, quasi unanime. On s'est dit, quel bel exercice de démocratie, on demande aux fidèles d'élire leur chef de culte. Il y a eu quelques voix discordantes, dont notamment un prêtre catholique qui a demandé « Mais quand est-ce que moi je peux élire mes évêques ?» Et en fait, la procédure était assez étonnante, puisque religion et démocratie, ça ne va pas forcément main dans la main. Et en plus, qu'on a demandé à toute personne qui était identifiée, auto-identifiée comme musulmane, de participer à ces élections. Alors qu'un organe chef de culte, ben, ça n'est rien d'autre qu'un organe qui a des missions tout à fait limitées de gestion du temporel des cultes, d'agrément des mosquées avant de transmettre les dossiers au gouvernement, de choix des imams, etc. Mais ça n'est pas un organe qui représente les personnes. Et il y a eu un grand malentendu là-dessus, y compris du côté du personnel politique. À un moment donné, on s'est dit, on va avoir un représentant pour la communauté musulmane qui va mettre sur les rails un islam à la belge que nous souhaitons, qui va exercer une forme de contrôle sur le monde musulman dans sa globalité qui est peut-être présent dans nos villes. Donc on a chargé cet organe de tous les espoirs, même les plus farfelus, et je dirais, dans certains cas, peu respectueux tout simplement de la liberté individuelle des croyants ou des non-croyants qui se voyaient, je dirais, quasi contraints de s'identifier à un organe représentatif dont ils n'avaient peut-être que faire. Et après, on s'est rendu compte, une fois la mise en place de cet organe, que ça fonctionnait très difficilement. Parce qu'effectivement, l'élection ne garantit pas qu'on obtienne des représentants qui sont compétents dans la matière souhaitée ou qui sont désireux de collaborer ensemble pour finalement présenter un front uni face au pouvoir public. Il y a eu des élections en 98, il y a eu ensuite toute une série de problèmes internes à l'exécutif, des démissions, une nouvelle élection en 2005, le deuxième exécutif qui n'a jamais très bien fonctionné. Et donc maintenant, nous avons un nouvel organe représentatif depuis le printemps. Ça a été quasi le dernier acte de Madame Turtelbaum avant de quitter le ministère de la Justice, puisqu'en Belgique, c'est le ministère de la Justice qui s'occupe des cultes, elle a signé l'arrêté de reconnaissance du nouvel exécutif des musulmans, qui est cette fois basé sur les communautés cultuelles, sur les mosquées. Et c'est une forme qui paraît à beaucoup moins démocratique ou moins représentative, mais que j'estime beaucoup plus cohérente avec notre système, puisqu'après tout, ce sont les gens qui sont les premiers concernés, donc pas les musulmans dans leur ensemble, mais ceux qui fréquentent les mosquées, qui sont les plus concernés, et sans doute les plus aptes à générer des représentants pour gérer le temporel des cultes. C'est d'ailleurs comme ça que ça se passe dans d'autres cultes, que ce soit chez les protestants ou chez les juifs. Les communautés locales délèguent un représentant, et de ces représentants est ensuite issu un organe représentatif. Donc voilà où nous en sommes maintenant, sans que ce nouvel organe n'ait jusqu'à présent pu démontrer ou affirmer les espoirs qui avaient été mis en lui. Évidemment, on était aussi dans une période de changement de gouvernement, et c'est toujours, un binôme qui doit fonctionner, le ministère de la Justice d'un côté, les organes représentatifs de l'autre, et une relation qui doit se mettre en place. Nous verrons ce que ça va donner dans les années à venir. Le résultat, c'est qu'il y a aujourd'hui 77 mosquées reconnues, c'est-à-dire qu'elles bénéficient des subsides des pouvoirs publics, sur environ 300, c'est-à-dire 300 mosquées qui sont connues de l'exécutif des musulmans de Belgique. Il y en a sans doute beaucoup d'autres, mais il y en a 300 qui sont en quelque sorte immatriculées auprès de l'exécutif, dont 77 sont reconnues, et vous voyez la répartition géographique. Il y a eu en Wallonie une volonté politique assez claire à un moment donné d'activer les reconnaissances de mosquées, et puis depuis on a un peu ralenti la cadence, donc il y en a eu beaucoup moins, tandis qu'en Flandre et à Bruxelles ça s'est fait de façon plus progressive, et il y a encore eu des reconnaissances récemment. Ce que je trouve le plus, on peut revenir éventuellement sur l'islam institutionnel et chargé de la gestion du temporel des cultes après, ce que me frappe, moi, dans l'actualité des années récentes, c'est le développement d'autres structures au sein de l'islam en Belgique. Alors, il y a évidemment les écoles, ça reste modeste puisque maintenant nous avons une troisième école musulmane à Bruxelles, mais c'est potentiellement appelé à se développer si la communauté peut mettre en œuvre les moyens nécessaires, puisqu'il faut toujours vivre pendant un an avant éventuellement de bénéficier des subsides des pouvoirs publics. C'est évidemment tout à fait cohérent par rapport à notre modèle d'enseignement, où il y a une part très importante des écoles qui sont des écoles libres, c'est-à-dire finalement des écoles privées subventionnées dont la grande majorité sont catholiques. Donc, puisque le système est ce qu'il est, il y a énormément d'écoles catholiques, il y a quelques écoles protestantes, il y a quelques écoles juives. Il est dans la logique du système qu'il y ait un développement d'écoles islamiques, même si beaucoup semblent trouver que c'est, si pas anormal, en tout cas potentiellement inquiétant. Mais je dirais à cela qu'il fallait réformer le système avant de s'inquiéter de voir de nouveaux bénéficiaires s'y inscrire. L'associatif musulman se développe aussi. Il y a des mouvements de jeunesse, il y a des scouts, les fourmis, il y a énormément d'associations musulmanes d'entraide à la communauté. Il y a des associations professionnelles, comme l'association belge des professionnels musulmans. C'est un peu, toute proportion gardée, le pendant des patrons catholiques qui existent depuis tant d'années. Et donc c'est effectivement une association qui a un but, de networking entre professionnels musulmans. Il y a la foire musulmane qui en est à sa troisième année le mois prochain à Tour et Taxi. Il y a le développement d'associations militantes essentiellement axées sur la lutte contre l'islamophobie. Il y a donc Muslim Rights Belgium, la Ligue des musulmans de Belgique, mais qui elle est une association assez proche des frères musulmans qui est moins axée directement sur la lutte contre l'islamophobie. Et tout récemment, le CCIB, le collectif contre l'islamophobie en Belgique. Alors je ne suis pas de ceux qui récusent l'appellation du terme islamophobie, même si évidemment on peut avoir beaucoup de réserves par rapport à la racine du nom. À un moment donné, je pense qu'il s'impose dans l'actualité, et j'ai le sentiment que nous avons un peu passé ce moment, et qu'il faudra se dégager de ce que le terme peut avoir de déplaisant par rapport à son histoire, par rapport à sa racine qui laisse croire que, en fait, ce qui est visé, c'est l'hostilité à une religion. Je pense qu'il y a effectivement un phénomène qui est tout à fait particulier, qui est le développement de l'hostilité à l'égard des personnes de confession musulmane ou d'origine musulmane ou identifiées comme telles, et qu'il faut trouver un nom pour décrire ce phénomène de façon simple. De la même façon que l'antisémitisme n'est pas a priori un terme qui aurait dû s'imposer, l'antijudaïsme, l'antijudéité aurait pu éventuellement être quelque chose de plus correct, puisqu'on répète souvent qu'effectivement les juifs ne sont pas les seuls sémites, mais antisémitisme désigne la haine des juifs. De la même façon, j'ai la conviction, mais ça m'est personnel, par exemple au niveau de l'équipe d'Orella, l'islamophobie n'est pas encore, je dirais, entrée dans les mœurs, ni dans notre rapport en tant que tel. Moi je pense qu'effectivement nous ne pourrons plus, beaucoup plus longtemps, continuer à parler de discrimination à l'égard des personnes qui sont musulmanes ou supposées telles, et qu'il va falloir se mettre d'accord sur ce concept. Ce qui est plus important, c'est de constater qu'effectivement il y a un développement de cette hostilité qui est évidemment parallèle au développement, d'abord au poids démographique de la communauté dans nos villes et particulièrement à Bruxelles, et puis sans doute au développement de la visibilité et des revendications. Pas forcément que l'attitude générale de la population ait beaucoup changé, mais qu'effectivement la communauté musulmane se mobilise pour dénoncer ces actes et pour lutter contre d'une façon spécifique. Il y a évidemment tout le développement du secteur halal. Là aussi, on manque d'études. On constate évidemment que c'est quelque chose de tout à fait important qui a quitté le domaine strictement alimentaire, puisque maintenant il y a de la finance halal, il y a énormément de choses qui se développent, et que même les agences à l'exportation, comme la WEX, prêtent une attention particulière au phénomène et organisent des formations à destination des entreprises wallonnes qui souhaitent exporter dans des pays à majorité musulmane ou s'adresser à une clientèle musulmane en Belgique. Au niveau politique, il y avait évidemment le petit parti islam et d'autres formations politiques avant lui, mais qui jusqu'à présent, et évidemment j'ajouterais fort heureusement, n'ont pas réussi à percer sur la scène politique, ce qui à mon avis ne veut pas dire que si à un moment donné un groupe issu du monde associatif et avec un agenda qui soit beaucoup plus structuré et qui ne soit pas entaché du fanatisme religieux comme l'était celui du parti islam, donc il n'est pas dit qu'à un moment donné un autre groupe ne puisse pas émerger et porter sur le plan politique des revendications. Après tout, nous avons eu et nous avons encore un parti confessionnel, en tout cas sur le plan de son appellation en Belgique, c'est le CDNV. Donc ce n'est pas quelque chose dont nous pouvons estimer qu'il est tout à fait impensable d'assister à son développement. Et donc en conclusion, je dirais que de plus en plus cette multiplication de structures, d'associations peut faire croire que nous arrivons tout doucement à une pilarisation islamique dans notre pays, tout comme pendant des années il y a eu un pilier chrétien. Et bien est-ce que demain il y aura un pilier musulman, et est-ce que nous verrons nos concitoyens de confession musulmane, je dirais, vivre dans un environnement qui sera de plus en plus spécifique et communautaire le jour où un ensemble de structures estampillées, je dirais, musulmanes sera à même de répondre à leurs besoins. On n'en est évidemment pas là, mais on aperçoit des prémices de développement de ce type de situation. Le monde chrétien s'est beaucoup diversifié dans notre pays. Et si l'Église catholique perd régulièrement des troupes, que ce soit au niveau des fidèles ou au niveau de ses ministres, les autres églises chrétiennes, au contraire, connaissent un certain développement dans notre pays. Modeste en nombre absolu, important en nombre relatif par rapport à la croissance que ça représente. C'est valable pour le monde orthodoxe, qui a vu le nombre de lieux de culte reconnus par les pouvoirs publics et non reconnus doubler depuis je dirais les 15-20 dernières années, avec l'arrivée d'immigrés en provenance d'Europe centrale et d'Europe orientale. C'est valable aussi pour le monde protestant, avec un contraste radical entre les anciennes églises protestantes qui sont présentes en Belgique parfois depuis le XVIe siècle et les églises évangélistes qui se sont implantées dans notre pays essentiellement à la charnière du XIXe et du XXe siècle et qui connaissent depuis 20-30 ans un développement absolument exponentiel, particulièrement encore une fois à Bruxelles, mais sans doute aussi dans d'autres grandes villes. Un sociologue de l'UCL, Olivier Servet, avait fait il y a quelques années une étude tout à fait simple mais éclairante à Bruxelles. Il avait envoyé ses étudiants parcourir les rues de la ville et noter tous les lieux de culte qui étaient visibles au niveau de l'espace public, qu'ils soient manifestés par par un élément architectural, par une simple plaque, par quoi que ce soit. Et le résultat de ces investigations avait été que, de loin, à Bruxelles, la communauté convictionnelle qui disposait du plus de lieux de culte identifiables depuis l'espace public, eh bien, c'était les protestants évangéliques. C'était pas du tout l'islam comme on aurait pu spontanément le penser, ni l'église catholique qui dispose tout de même d'un réseau de paroisses dont les origines remontent au XIXe siècle. Et donc des églises très très dynamiques, puisque le CACP, qui est l'organe fédérateur du protestantisme belge, en répertorie pas moins de 720, dont 105 EPUB, c'est-à-dire Église protestante unie de Belgique, celle dont on célèbre cette année le 175e anniversaire. Ce sont les églises protestantes luthériennes traditionnelles qui étaient établies en Belgique depuis bien longtemps. Toutes les autres, soit près de plus de 600 églises, sont des églises évangéliques. Parmi elles, il y a un nombre très important d'églises pentecôtistes et d'églises africaines. C'est un phénomène qui est difficile à étudier, même si on commence à le faire de plus en plus, en raison notamment de la grande mobilité des communautés protestantes évangéliques et africaines qui se déplacent d'un lieu à l'autre, qui changent de pasteur. Vous avez des églises qui peuvent réunir des centaines de fidèles, et puis le pasteur s'en va, et puis le mois prochain, il n'y a plus personne. Donc c'est un phénomène difficile à appréhender, mais qui est certainement une réalité très importante, en tout cas à Bruxelles. D'autres églises chrétiennes sont présentes également, comme l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, mieux connue sous le nom d'église mormone et les Témoins de Jéhovah, deux communautés qui se caractérisent notamment par un prosélytisme assez visible, voire même assez agressif dans le chef des Témoins de Jéhovah. Des églises qui sont implantées depuis longtemps dans notre pays et qui connaissent, là c'est assez aussi difficile à appréhender, semble-t-il une croissance modeste pour l'église mormone et une stabilisation au niveau des Témoins de Jéhovah, dont finalement, je dirais, le return sur investissement est particulièrement faible. Il faut en effet faire plusieurs centaines de visites auprès d'un converti potentiel pour obtenir effectivement une conversion. Et cette diversité du monde chrétien est finalement peu présente au niveau des médias. Autant l'islam monopolise l'attention, autant les églises chrétiennes non catholiques généralement ne reçoivent pas beaucoup d'attention de la part des médias, alors qu'à Bruxelles, c'est une communauté, ce sont des communautés en croissance importante et qui, dans certains cas, posent les mêmes questions et causent éventuellement les mêmes problèmes que les communautés musulmanes. Les mêmes questions, c'est par exemple, je l'évoquais, c'est la pluralité des communautés, c'est leur extrême diversité, c'est leur mouvance, c'est la difficulté d'avoir un interlocuteur central dans un organe représentatif qui représente toute la diversité de ces cultes. Par parenthèse, je fais un excursus ici, mais on a effectivement un exécutif des musulmans pour toute la diversité des courants à l'intérieur de l'islam, y compris les origines nationales, alors que pour les cultes chrétiens, mais on a évidemment séparé, on n'a pas demandé aux autres chrétiens de s'entendre avec les catholiques pour former une seule communauté. Donc je disais, un monde chrétien extrêmement divers et encore relativement peu étudié. Je parlais des questions. Les problèmes, j'avais posé le mot problème parce qu'au niveau du protestantisme, il y a une branche fondamentaliste et littéraliste qui pose vraiment le même genre de problème, par exemple au niveau de l'enseignement, avec une promotion du créationnisme, avec un refus de la mixité, avec toute une série de choses. Et donc ce sont des problèmes qui, même s'ils se rencontrent moins fréquemment qu'avec des familles musulmanes, se rencontrent également au niveau de familles protestantes. J'en arrive au troisième point, qui est celui du financement public. Premier élément, vous voyez dans la colonne de gauche les communautés qui bénéficient de ce financement. Les cultes catholiques, protestants et anglicans ont été financés dès les débuts de l'État belge, et la communauté israélite peu après, dans un souci d'égalité qu'il faut souligner parce que c'est effectivement un élément extrêmement rare dans le concert des pays européens du XIXe siècle. Et à la fin du XXe siècle, on a donc ajouté le culte islamique, le culte orthodoxe et la laïcité dite organisée, c'est-à-dire les organisations du Conseil central laïque à la liste des communautés financées. Ça a été le résultat d'une décision, je dirais, mûrement réfléchie, de la part des organisations laïques, de finalement cesser de revendiquer l'abolition du financement public, même si formellement elles le font toujours, mais plutôt de chercher à s'approprier une part des fonds publics qui étaient alloués au culte. Et ça a évidemment réussi de façon significative, puisque vous voyez sur ce tableau, et encore date-t-il de 2008, je vous dirai pourquoi dans un moment, que la laïcité dite organisée, c'est-à-dire le CAL côté francophone et l'UVV côté néerlandophone, représente en termes de moyens financiers la deuxième communauté financée en Belgique. Alors pourquoi mon tableau date-t-il de 2008 ? C'est parce que les chiffres sont très difficiles à obtenir. Donc le financement public des cultes s'exposer en trois piliers. Il y a d'abord le financement des traitements et pensions qui est une compétence, une charge de l'État fédéral. Il y a ensuite le financement des familles d'église et communautés assimilées pour les autres cultes, donc les mosquées, les temples protestants, les synagogues, etc. C'est une compétence des régions, mais la charge financière revient essentiellement aux communes et de façon subsidiaire aux provinces. Et puis il y a d'autres types de financement, comme les aumôniers, comme les émissions concédées à la télévision, des choses ainsi, et également toutes les interventions au titre du patrimoine, puisqu'une bonne partie des églises sont classées. Il y a les interventions financières parce qu'il s'agit d'un lieu de culte reconnu, et puis il y a les interventions financières parce qu'il s'agit d'un lieu classé, et ça rentre également dans des interventions diverses. Ces chiffres sont difficiles à obtenir, sauf pour les traitements, où là, c'est publié chaque année par le ministère de la Justice, il n'y a pas de mystère, mais pour les interventions financières des pouvoirs locaux, des communes et des provinces, c'est quelque chose d'extrêmement difficile parce qu'il n'y a pas de comptabilisation qui est faite globalement nulle part, et que par ailleurs, les communes inscrivent ça parfois sous des lignes budgétaires différentes. Donc je vous disais, il y a des interventions au titre du patrimoine, il y a effectivement les interventions cultes, mais par exemple les maisons de la laïcité, est-ce que ça fait partie de ce financement ou ça n'en fait pas partie ? Donc c'est un véritable travail de fourmi que d'aller additionner les montants qui sont présents dans les différents budgets communaux et provinciaux. Et fort heureusement, mon collègue et ami Jean-François Husson a fait tout cela en 2008. Malheureusement, il ne l'a pas refait depuis. Et de mon côté, je n'ai pas eu le courage de consacrer de nombreuses semaines, voire de plusieurs mois, à cette question. Et donc, j'ai gardé mon tableau de 2008 parce qu'ainsi, la proportionnalité entre les axes d'intervention est respectée. Je peux tout de suite vous dire qu'au niveau des traitements, on reste à peu près au même montant. Ça n'a pas changé de toute façon parce qu'on est dans un jeu de vases communicants. Il y a chaque année de moins en moins de prêtres catholiques qui sont financés, et il y a plus de musulmans, plus de délégués laïcs, un peu plus de protestants et d'orthodoxes. Donc les choses s'équilibrent et le budget culte au niveau de la justice reste assez constant. J'ai également établi une proportion du total, donc c'est quelque chose qu'on demande assez souvent, et ça permet de voir qu'effectivement le culte catholique se taille la part du lion avec plus de 85% des moyens disponibles. C'est une proportion qui décroît. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la problématique il y a à peu près 10 ans, on en était à plus de 95% pour les catholiques. Ça a décru à la fois parce que, comme je le disais, il y a de moins en moins de ministres du culte catholique, qui a également tout de même des dépenses qui sont plafonnées ou qui diminuent au niveau des fabriques, parce que quand un lieu de culte n'est plus autant utilisé, bien, généralement la fabrique d'église ne demande pas à la commune des interventions aussi significatives pour l'entretien, ou par exemple au niveau du chauffage, des choses comme ça. Et puis aussi ça a décru parce que la part des autres cultes a augmenté, et surtout celle de la laïcité qui est venue évidemment en quelque sorte corriger le tir. Alors on essaye souvent de réfléchir en se disant, est-ce que ces pourcentages sont en adéquation avec ce qu'on connaît de la représentativité de ces différents cultes au sein de la population? Moi je dis toujours que c'est une erreur, parce que il y a une foule de gens, j'en suis par exemple, qui ne fréquentent aucune communauté religieuse. Et bon, au niveau de la laïcité, je ne participe pas non plus aux rites dont on pourrait imaginer qu'ils sont là pour se substituer à des rites religieux, baptême, fait de la morale laïque, que sais-je. Et donc, il faut évidemment rapporter cette proportion au nombre des gens qui ont recours à une assistance spirituelle ou religieuse. Et donc, parmi les gens qui fréquentent un lieu de culte, un lieu convictionnel, il ne me paraît pas tout à fait absurde d'imaginer que 85% est peut-être un peu beaucoup, mais que 80% d'entre eux soient effectivement des catholiques. Et donc, je pense que ces chiffres ne sont pas aussi scandaleux qu'on le présente parfois. En revanche, et c'est tout à fait clair, ils ne sont absolument pas objectivés parce qu'ils ne reposent sur rien. Ils ne reposent pas sur un recensement, ils ne reposent pas sur une déclaration, ils reposent uniquement sur l'acquis. Pour ce qui est de l'Église catholique, pendant très longtemps, on a considéré que dès qu'il y avait 600 habitants, on pouvait ériger un lieu de culte, le faire reconnaître par les pouvoirs publics et avoir un desservant pour ce lieu de culte. Parce qu'à l'époque, ben, quasi tout le monde était catholique. Au XIXe siècle, on en a fait un recensement des convictions dans les 20 premières années qui ont suivi l'indépendance, et on a découvert que 99% des gens se déclaraient catholiques. Et donc à l'époque, il y avait une espèce il y avait d'abord une grande proximité entre l'Église et l'État, quoi qu'on en dise, même si à certains moments ça pouvait être très conflictuel, mais il y avait une forme d'adéquation entre le développement des structures civiles et des structures ecclésiastiques. Quand on avait un nouveau village, un hameau qui se créait, parce qu'il y a une croissance démographique importante en Belgique depuis l'indépendance jusqu'à la fin du XXe siècle, quand il y a croissance démographique, qu'il y a croissance de l'habitat, ben, on installe une église. Pour les autres cultes, c'était évidemment pas ça, donc on leur a demandé de justifier l'existence d'un certain nombre de fidèles, mais ça a toujours été de façon un peu informelle. On leur demandait de venir et de dire, voilà, vous avez 250 protestants dans cette communauté, ben, nous estimons qu'effectivement c'est assez normal de vous financer. Donc il n'y a jamais eu aucun critère de répartition du financement en Belgique, pas plus qu'il n'y en a au départ pour la reconnaissance des cultes. C'est le Parlement qui décide de modifier la loi de financement des cultes du 4 mars 1870 en admettant une nouvelle communauté au financement public. Et donc il n'y a rien qui puisse nous éclairer sur l'opportunité de reconnaître ou non une nouvelle communauté. Le cas du bouddhisme est un peu particulier puisqu'il est dans un stade, je dirais, transitoire. Il a obtenu un subside destiné à lui permettre de se structurer afin d'accéder à un financement public en tout point similaire à celui des autres communautés. Il est coincé là depuis quelques années. Alors, fait piquant, le bouddhisme a choisi d'être reconnu comme organisation philosophique non confessionnelle et pas comme culte. Alors il y a évidemment des justifications qui sont avancées selon lesquelles le bouddhisme est une philosophie davantage qu'un culte. Il y a aussi des avantages dans cette situation, puisque le régime de financement, c'est un peu technique, mais c'est un point quand même intéressant à noter, le régime de financement des ministres des cultes et des délégués laïcs est très différent. Puisque les ministres des cultes ont un salaire qui n'est d'ailleurs pas très conséquent, en tout cas pour ce qui est des desservants de base, je dirais, et un salaire qui est fixe pendant toute leur carrière. Évidemment, ils ont d'autres avantages, comme la fourniture d'un logement, etc. On peut en reparler tout à l'heure. Tandis que les délégués laïcs ont un salaire barémisé avec une ancienneté et calqué sur celui de la fonction publique. Alors si effectivement les bouddhistes se font reconnaître comme organisation philosophique non confessionnelle, très logiquement leur personnel aura accès au même barème que ceux de la laïcité organisée et non pas au financement, bloqué des ministres des cultes. Mais ça pose une autre question tout aussi amusante également. C'est qu'en Belgique, on l'a rappelé tout à l'heure, les religions reconnues ont le droit à organiser, proposer un cours de religion dans les écoles officielles. À côté de ça, il y a de la morale qui est toujours censée être morale non confessionnelle, morale neutre et non pas morale laïque. Religion reconnue, un cours de religion. Si le bouddhisme se fait reconnaître comme organisation philosophique non confessionnelle, aura-t-il droit à un cours ? Sera-ce considéré comme un cours de religion ? Ou y aura-t-il un cours de morale bouddhique qui viendrait en parallèle au cours de morale non confessionnelle ? On peut cependant espérer que le système sera changé en profondeur avant d'en arriver là. Ah oui, encore un petit tableau que je vous ai préparé, c'est celui du nombre de ministres du culte et délégués laïcs qui voient leur salaire pris en charge par l'État fédéral. Donc ça, ce sont les équivalents temps plein en 2013, et ce sont les postes effectivement occupés. Si l'Église catholique avait davantage de prêtres, elle pourrait obtenir environ 2000 postes supplémentaires sur base du cadre légal. Simplement, elle n'arrive pas à remplir les postes qui sont proposés. Et ce, en dépit du fait qu'un accord est intervenu il y a quelques années, alors que Loretto Koenig était ministre de la Justice, pour qu'un certain nombre de laïcs puissent obtenir un traitement de ministre du culte. C'est ce qu'on appelle les assistants paroissiaux, qui sont dans l'immense majorité des cas des assistantes paroissiales. Et donc nous avons en Belgique une centaine de femmes qui touchent un traitement de ministre du culte catholique. Vous voyez les chiffres devant vous, là aussi c'est la même proportionnalité. Le culte catholique, la part du lion, la deuxième communauté en termes d'importance, la laïcité organisée, et les chiffres qui concernent les autres communautés, qui ne me paraissent pas totalement absurdes par rapport à ce qu'on connaît de la répartition des convictions en Belgique, à cela près qu'au niveau du culte islamique, 60 postes financés, c'est évidemment très peu par rapport au nombre de communautés qui sont présentes sur le territoire, et donc là, clairement, il y a encore un rattrapage qui doit être fait. J'en viens à la question de l'enseignement. en commençant par rappeler quelque chose que j'estime extrêmement important et tout à fait fondamental. C'est la place de l'enseignement libre dans notre pays. Sachant que cet enseignement libre est bien évidemment quasi exclusivement de l'enseignement confessionnel catholique. Au niveau de la communauté française, grosso modo, une école sur deux est une école libre. Au niveau de la communauté flamande, la proportion est encore plus importante, puisqu'au niveau du secondaire, c'est même 3 écoles sur 4 qui sont des écoles confessionnelles catholiques. Et donc je crois que quand on discute de la place de la religion à l'école, on ne peut pas perdre de vue cette répartition tout à fait particulière. Et donc toute réflexion, me semble-t-il, doit être globale et englober l'ensemble des réseaux. Changer quelque chose, faire une réforme uniquement pour les écoles officielles, ça ne me paraît pas du tout suffisant. Bon, il y a quelques petites particularités des chiffres qu'on peut évidemment expliquer. Par exemple, la part plus importante de l'officiel au niveau primaire, c'est un héritage de l'école communale où de nombreux parents continuent à envoyer leurs enfants, alors qu'au niveau de l'école secondaire, la tradition des écoles organisées par l'Église est plus ancienne, tout comme la tradition pour les familles catholiques d'y envoyer de préférence leurs enfants. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a en Belgique, dans les écoles officielles en application du pacte scolaire de 1958, un choix qui est offert entre l'enseignement d'une des religions reconnues ou celui de la morale non confessionnelle. Dans les écoles libres, il n'y a pas de choix, c'est la religion de la confession de l'école qui est obligatoire. En pratique, c'est quasi toujours la religion catholique, puisqu'il y a quelques écoles islamiques, juives et protestantes, mais elles se comptent sur les doigts d'une main. Et donc, quand vous regardez les statistiques globales, tout réseau confondu, vous arrivez fort logiquement à une situation où 66% des enfants du primaire, 69% des enfants du secondaire suivent le cours de religion catholique. Vous voyez les pourcentages pour les autres cours. On est dans un système avec 3 grands et 3 petits. C'est-à-dire que les cours de religion catholique et islamique ainsi que de morale rassemblent 98% des élèves. Les autres, ce sont vraiment des proportions très faibles. Dans certains établissements, ce sont même des élèves qui se comptent à l'unité, à 2 unités, à 3 unités. C'est une particularité du système belge de ne demander aucun seuil de fréquentation pour organiser un cours pour l'ouvrir. Dans d'autres pays, il y a généralement un nombre minimum d'élèves qui est requis pour organiser un cours. 4, 5 par exemple, en Belgique, un seul élève dont les parents font la demande peut obtenir un cours de la religion de son choix. Très interpellant à nouveau, ce sont les statistiques au niveau du réseau officiel. Là, c'est de façon globale, donc dans les écoles où un choix peut être posé. On voit évidemment une baisse de la proportion globale des élèves qui suivent le cours de religion catholique, particulièrement au niveau du secondaire, et une part beaucoup plus importante des élèves qui suivent le cours de religion islamique et surtout de morale. Si on ventile les statistiques par région, ce que la communauté française permet, alors qu'elle ne permet pas de le ventiler par commune, sinon on pourrait le faire ville, campagne, etc. Donc on a Bruxelles, j'ai isolé Bruxelles, et là vous voyez que le cours de religion, qui est le cours dit philosophique qui est le plus suivi, est de très loin, que ce soit au niveau du primaire ou du secondaire, le cours de religion islamique, puisqu'on va bientôt approcher d'un élève sur deux à Bruxelles qui suit le cours de religion islamique. Cette statistique globale, évidemment, ne rend pas du tout compte des situations qui sont très variées d'un établissement à l'autre. Il y a des établissements dans le sud de Bruxelles où il n'y a pratiquement pas d'élèves qui suivent le cours de religion islamique, et il y a des établissements dans le nord-ouest de Bruxelles où il n'y a quasi que le cours de religion islamique qui est organisé. Les autres religions protestantes, orthodoxes, israélites rassemblent également à Bruxelles un peu plus d'élèves que dans la communauté française prise dans son ensemble, nouvelle indication de cette diversité confessionnelle de la capitale. Sur base notamment de ces statistiques et d'un ensemble de problèmes, qu'ils soient pratiques, c'est-à-dire le coût supplémentaire, la difficulté d'organiser ces cours, ou qu'ils soient fondamentaux, c'est-à-dire une prise de position claire par rapport au problème que cela représente de séparer les élèves pour le seul cours qui aborde des questions comme l'éthique ou la citoyenneté. Sur base de ce constat, j'ai rejoint le clan de ceux qui estiment qu'il faut réformer en profondeur notre système et créer un nouveau cours d'éthique, de citoyenneté, de culture religieuse qui soit imposé à toutes les écoles, qu'elles soient du réseau libre ou du réseau officiel, sachant qu'en conformité avec notre tradition constitutionnelle, les écoles libres resteraient absolument libres d'offrir un cours de religion engagé qui correspond à leur identité convictionnelle. Mais je ne vois pas d'obstacle majeur, que ce soit sur le plan juridique ou autre, qui empêcherait d'introduire immédiatement un cours de citoyenneté et de culture religieuse dans l'ensemble des établissements. Au niveau du réseau officiel, les cours actuels pourraient demeurer organisés ainsi que le prescrit la Constitution. Ils seraient simplement rendus facultatifs. Et donc voilà ce petit livre qui devrait sortir incessamment sous peu, c'est-à-dire dans maximum 15 jours, que j'ai coécrit avec Patrick Loubeuc, qui préside en Flandre une association qui milite depuis plusieurs années pour l'introduction d'un tel cours, finalement un peu sur le modèle canadien, et qui a réussi en Flandre à fédérer des gens, je dirais, un peu dans tous les milieux, à la fois des laïcs convaincus, mais aussi des gens issus du monde catholique qui disent effectivement, face à la diversité convictionnelle, face à une situation qui n'a plus rien à voir avec celle du pacte scolaire, il est urgent de repenser l'enseignement de la religion et donc de s'orienter vers un enseignement commun à tous. Quelques remarques donc de conclusion par rapport à ce que je vous ai dit et par rapport à d'autres éléments encore. Le catholicisme reste clairement la première religion de notre pays et elle imprègne encore fortement la culture. Un exemple, le calendrier, qui reste extrêmement marqué par la tradition catholique, puisque je crois que sur les 10 jours fériés, il y en a 6 qui correspondent à des fêtes religieuses catholiques. Quelque chose qui, bien souvent, n'émeut que très peu les laïcs. Quand on a parlé de réforme de calendrier, il y a eu des levées de boucliers, je dirais, un peu de tous côtés. Il y a eu pas mal de gens qui ont dit « Mais bon, Noël, ça n'a plus rien à voir avec le catholicisme. Noël, voyons, c'est une fête pour tout le monde. C'est une question culturelle. » Et donc, il n'y a pas de remise en cause de tout ce substrat, finalement, qui est lié à notre origine catholique. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément tout remettre en cause, mais qu'avoir un minimum d'esprit critique et une prise de conscience de ce qui reste d'origine catholique dans notre société ne ferait sans doute pas de tort. Il y a évidemment tout ce qu'on peut constater au niveau du paysage, au niveau de l'architecture, et évidemment c'est quelque chose dont on va devoir continuer à le gérer. La deuxième religion du pays, donc je dis religion parce que j'écarte communauté convictionnelle, sans doute que les incroyants, les non-religieux sont de loin la deuxième communauté du pays, mais au niveau de la religion, la deuxième religion du pays, c'est l'islam, occupe sans doute une proportion tout de même exagérée au niveau du champ médiatique. C'est évidemment en lien avec les événements d'actualité internationale, mais ces deux dernières années, moi j'ai été extrêmement frappé par les couvertures, les articles de presse relatifs à l'islam, et on pourrait faire une étude sur base des termes utilisés, mais généralement ce sont des articles qui sont à caractère majoritairement, me semble-t-il, négatif. Ce qui n'empêche finalement qu'il y a un déficit d'études sur les différentes formes de pratiques religieuses islamiques dans notre pays. On en parle beaucoup, mais on a très très peu d'études fondées sur des investigations scientifiques du degré de pratique des musulmans de notre pays, de la nature de leurs convictions, etc. Tous les autres groupes, en ce compris les athées, occupent très très peu le champ médiatique dans notre pays, alors que dans une ville comme Bruxelles, ils représentent une partie finalement non négligeable de la population et surtout une partie religieusement, je dirais, particulièrement dynamique. Ça c'est pour le paysage convictionnel. Maintenant, au niveau de l'organisation de notre régime des cultes, une question qu'on évoque souvent et qui est le sujet d'innombrables conférences, c'est de savoir si nous vivons dans un régime de séparation de l'Église et de l'État. De façon très curieuse, on rencontre des tenants de cette thèse à la fois au sein du monde catholique et au sein du monde laïque, que ce soit à l'UCL ou à l'ULB. Il y a des gens qui pensent qu'on est effectivement dans un régime de séparation très clair, d'autres qui pensent qu'on est plutôt dans un régime qui met l'accent sur la reconnaissance ou qui disent que cette séparation est mitigée. Moi, je pense, pour ma part, qu'on n'est pas du tout dans un régime de séparation, on est dans un régime d'autonomie des cultes. Et c'est comme ça qu'il a été pensé en 1831 dans la Constitution. On a donné à l'Église toute indépendance de gérer ses affaires. On n'a pas établi dans le texte constitutionnel l'indépendance de l'État à l'égard de ce culte de l'Église. Alors, c'est effectivement quelque chose qui était du domaine du non-dit, à l'époque du Congrès national, plusieurs députés s'expriment en ce sens, pour dire que l'Église et l'État, ce sont deux puissances qui n'ont rien à voir entre elles, mais on n'a pas formellement établi la séparation, pas plus qu'on a par exemple établi la suprématie du droit civil sur le droit religieux. Un exemple, il y a dans la Constitution une disposition qui dit que le mariage religieux doit suivre le mariage civil. Il est interdit de célébrer un mariage religieux dans notre pays si on n'est pas, si le couple n'a pas été marié civilement auparavant. Mais cette exception elle-même pose question. Si on a jugé nécessaire de mettre l'exception, c'est qu'on n'était pas très sûr des autres cas. Donc ce n'est pas cet élément-là, à mon sens, qui fonde la séparation. Au contraire, elle est de nature à jeter le doute sur l'existence de cette séparation. Et enfin, le problème de la laïcité, dont on a cherché, il y a eu différentes initiatives parlementaires à en inscrire le principe dans la Constitution, on est en Belgique dans une situation particulièrement difficile et sans doute assez bloquée à ce niveau-là, puisque laïcité désigne à la fois le principe de séparation d'Église de l'État, le principe politique, et puis la communauté philosophique qui maintenant s'est fait reconnaître sur une base, je dirais, assez comparable à celle des cultes. Et donc le mot laïcité est lui-même souvent mal compris en Belgique, et il est devenu souvent peu audible par les communautés de croyants, qui ne veulent pas souscrire à un principe laïque, qui est vu souvent comme étant un principe défendu essentiellement par et pour les athées. Et donc là, on a un vrai problème en Belgique d'avoir eu une espèce de confiscation de ce terme, même si historiquement, on peut bien comprendre que ce sont essentiellement des libres penseurs qui se sont battus pour obtenir la séparation de l'Église et de l'État. Donc je dirais que la fusion des luttes, elle est assez normale, mais à aucun moment, ultérieurement, il n'y a eu une scission des deux choses, des groupes qui revendiquent effectivement une stricte séparation de l'Église et de l'État d'un côté, et puis de groupes qui développent et étudient un humanisme qui ne se réfère à aucune transcendance. Et donc cette confusion rend, à mon avis, les possibilités d'évolution du système en Belgique assez réduites, et à mon avis polluent de façon importante le débat, par exemple sur les signes extérieurs de religion. Quand on dit qu'au nom de la laïcité il faut interdire telle ou telle chose, ben, il y a des gens qui répliquent, mais non, on ne va pas suivre le cal là-dedans, alors que c'est pas du tout de ça qu'il est question, mais il y a un malentendu sur la signification du mot laïcité dont je ne vois, je vous avoue, pas très bien comment nous pourrions nous en sortir. Voilà, ceci termine ce que j'avais plus ou moins pensé vous dire d'emblée. Maintenant, je serais ravi d'en discuter, de discuter d'autres sujets avec vous.